Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Toujours dans nos lectures en liberté, et toujours avec ces textes courts d'auteurs classiques. Tout d'abord, Le matelot d'Amsterdam par Guillaume Apollinaire. Le brick hollandais, l'Alkmaar, revenait de Java, chargé d'épices et d'autres matières précieuses. Il fit escale à Southampton et les matelots eurent permission de descendre à terre. L'un d'eux, Hendrik Verstig, emportait un singe sur l'épaule droite, un perroquet sur l'épaule gauche, et en bandoulière un ballot de tissu indien qu'il avait l'intention de vendre dans la ville ainsi que ses animaux. On était au commencement du printemps, et la nuit tombait encore de bonne heure. Hendrik marchait d'un bon pas dans les rues un peu brumeuses que la lumière du gaz n'éclairait qu'à peine. Le matelot pensait à son prochain retour à Amsterdam, à sa mère qu'il n'avait pas vue depuis 3 ans, à sa fiancée qui l'attendait à Monnikendam. Il supputait l'argent qu'il retirerait de ses animaux et de ses étoffes, et il cherchait la boutique où il pourrait vendre ses marchandises exotiques. Dans Above Bar Street, un monsieur très correctement mis l'aborda, en lui demandant s'il cherchait un acheteur pour son perroquet. « Cet oiseau-là, dit-il, ferait bien mon affaire. J'ai besoin de quelqu'un qui me parle sans que j'aie à lui répondre et je vis tout seul. » Comme la plupart des matelots hollandais, Hendrik parlait l'anglais. Il fit son prix, qui convint à l'inconnu. « Suivez-moi, dit ce dernier, j'habite assez loin. Vous mettrez vous-même le perroquet dans une cage que j'ai chez moi. Vous déballerez vos étoffes et peut-être en trouverai-je à mon goût. » Tout heureux de l'aubaine, Hendrik s'en alla avec le gentleman auquel, dans l'espoir de le lui vendre aussi, il fit en route l'éloge de son singe, qui était, disait-il, d'une race fort rare, une de celles dont les individus résistent le mieux au climat de l'Angleterre et qui s'attachent le plus à leur maître. Mais bientôt, Hendrik cessa de parler. Il dépensait ses paroles en pure perte, car l'inconnu ne lui répondait pas et ne semblait même point l'écouter. Ils continuèrent leur route en silence, l'un à côté de l'autre. Seuls, regrettant leur forêt natale au tropique, le singe, effrayé dans la brume, poussait parfois un petit cri semblable au vagissement d'un enfant nouveau-né, et le perroquet battait des ailes. Au bout d'une heure de marche, l'inconnu dit brusquement « Nous approchons de chez moi !» Ils étaient sortis de la ville. La route était bordée de grands parcs, clos de grilles. De temps en temps brillaient à travers les arbres les fenêtres éclairées d'un cottage, et l'on entendait à intervalles dans le lointain le cri sinistre d'une sirène de mer. L'inconnu s'arrêta devant une grille, tira de sa poche un trousseau de clés et ouvrit la porte, qu'il referma après que Hendrik l'eut franchi. Le matelot était impressionné. Il distinguait à peine dans le fond d'un jardin une petite villa d'assez bonne apparence, mais dont les persiennes fermées ne laissaient passer aucune lumière. L'inconnu, silencieux, la maison sans vie, tout cela était assez lugubre. Mais Hendrik se souvint que l'inconnu habitait seul. C'est un original, pensa-t-il. Et comme un matelot hollandais n'est pas assez riche pour qu'on l'attire dans le but de le dévaliser, il eut honte de son moment d'anxiété. Si vous avez des allumettes, éclairez-moi, dit l'inconnu, en introduisant une clé dans la serrure qui fermait la porte du cottage. Le matelot obéit, et dès qu'ils furent à l'intérieur de la maison, l'inconnu apporta une lampe qui éclaira bientôt un salon meublé avec goût. Hendrik était complètement rassuré. Il nourrissait déjà l'espoir que son bizarre compagnon lui achèterait une bonne partie de ses étoffes. L'inconnu, qui était sorti du salon, revint avec une cage. « Mettez-y votre perroquet, dit-il. Je ne le placerai sur son perchoir que lorsqu'il sera apprivoisé et saura dire ce que je veux qu'il dise. » Puis, après avoir fermé la cage où l'oiseau s'effarait, il pria le matelot de prendre la lampe et de passer dans la pièce voisine où se trouvait, disait-il, une table commode pour y étaler des étoffes. Hendrik obéit et alla dans la chambre qui lui était indiquée. Aussitôt, il entendit la porte se refermer derrière lui, la clé tourna. Il était prisonnier. Interdit, il posa la lampe sur la table et voulut se ruer contre la porte pour l'enfoncer. Mais une voix l'arrêta. « Un pas et vous êtes mort, matelot !» Levant la tête, Hendrik vit par une lucarne qu'il n'avait pas encore aperçue le canon d'un revolver braqué sur lui. Terrifié, il s'arrêta. Il n'y avait pas à lutter. Son couteau ne pouvait lui servir dans la circonstance. Un revolver même eût été inutile. L'inconnu qui le tenait à sa merci s'abritait derrière le mur, à côté de la lucarne, d'où il surveillait le matelot et où passait seule la main qui braquait le revolver. « Écoutez-moi bien, dit l'inconnu, et obéissez. Le service forcé que vous allez me rendre sera récompensé. Mais vous n'avez pas le choix, il faut m'obéir sans hésitation. » « Sinon je vous tuerai comme un chien. Ouvrez le tiroir de la table. » Il y a là un revolver à 6 coups, chargé de 5 balles. Prenez-le. » Le matelot hollandais obéissait presque inconsciemment. Le singe, sur son épaule, poussait des cris de terreur et tremblait. L'inconnu continua. « Il y a un rideau au fond de la chambre. Tirez-le. » Le rideau tiré, Hendrik vit une alcôve dans laquelle, sur un lit, pieds et mains liés, bâillonnés, une femme le regardait avec des yeux pleins de désespoir. « Détachez les mains et les pieds de cette femme, dit l'inconnu, ôtez-lui son bâillon. » L'ordre exécuté, la femme, toute jeune et d'une beauté admirable, se jeta à genoux du côté de la lucarne en s'écriant « Harry, c'est un guet-apens infâme! Vous m'avez attiré dans cette villa pour m'y assassiner! Vous prétendez l'avoir loué afin que nous y passions les premiers temps de notre réconciliation. Je croyais vous avoir convaincu. Je pensais que vous étiez finalement certain que je n'ai jamais été coupable. Harry, Harry, je suis innocente !» « Je ne vous crois pas, » dit sèchement l'inconnu. « Harry, je suis innocente !» répéta la jeune dame d'une voix étranglée. « Ce sont vos dernières paroles, je les enregistre avec soin. On me les répétera toute ma vie. » Et la voix de l'inconnu trembla un peu, mais redevint ferme aussitôt, car « Je vous aime encore, » ajouta-t-il. « Si je vous aimais moins, je vous tuerais moi-même. » Mais cela m'est impossible, car je vous aime. Maintenant, matelot, si avant que je n'aie compté jusqu'à 10, vous n'avez pas logé une balle dans la tête de cette femme, vous tomberez mort à ses pieds. 1, 2, 3. Et avant que l'inconnu eût le temps de compter jusqu'à 4, Hendrik, affolé, tira sur la femme qui, toujours à genoux, le regardait fixement. Elle tomba, la face contre le sol. La balle l'avait frappé au front. Aussitôt, un coup de feu partit de la lucarne, vint frapper le matelot à la tempe droite. Il s'affaissa contre la table, tandis que le singe, poussant des cris aigus d'épouvante, se cachait dans sa vareuse. Le lendemain, des passants ayant entendu des cris étranges venus d'un cottage de la banlieue de Southampton, avertirent la police, qui arriva bientôt pour enfoncer les portes. On trouva les cadavres de la jeune dame et du matelot. Le singe sortit brusquement de la vareuse de son maître, sauta au nez de l'un des policiers. Il les effraya tous à tel point qu'ayant fait quelques pas en arrière, ils l'abattirent à coups de revolver avant d'oser approcher de nouveau. La justice informa. Il parut clair que le matelot avait tué la dame et s'était suicidé ensuite. Néanmoins, les circonstances du drame paraissaient mystérieuses. Les deux cadavres furent identifiés sans peine et l'on se demanda comment Lady Fingal, femme d'un pair d'Angleterre, s'était trouvée seule dans une maison de campagne, isolée, avec un matelot arrivé la veille à Southampton. Le propriétaire de la villa ne put donner aucun renseignement propre à éclairer la justice. Le cottage avait été loué 8 jours avant le drame à un soi-disant Collins de Manchester, qui d'ailleurs demeura introuvable. Ce Collins portait des lunettes. Il avait une longue barbe rousse qui pouvait fort bien être fausse. Le lord arriva de Londres en toute hâte. Il adorait sa femme et sa douleur faisait peine à voir. Comme tout le monde, il ne comprenait rien à cette affaire. Depuis ces événements, il s'est retiré du monde. Il vit dans la maison de Kensington, sans autre compagnie qu'un domestique et un perroquet qui répète sans cesse « Harry, je suis innocente ! Harry, je suis innocente ! Harry, je suis innocente !»
Et c'est lui comme un matelot, et c'est lui qu'on n'attendait plus. Et c'est lui comme un matelot qui s'en revient les bras tendus. Et c'est lui comme un matelot qui s'en revient les bras tendus pour baiser ceux qu'il a connus, rire à ceux qu'il n'a jamais vus. Et c'est lui comme un matelot qui s'en revient le sac au dos. Et c'est lui comme un matelot qui s'en revient le sac au dos. Or bonnes heures, laissez alors choir vos tricots. Or bonnes heures, endormez-vous jusqu'à tantôt. Or bonnes heures, endormez-vous jusqu'à tantôt. Il fait si chaud dans vos demeures et c'est fait de si bon cœur. Mais partant ce mât d'en haut, voici s'agiter les vaisseaux. Mais partant ce mât d'en haut, voici s'agiter les vaisseaux. Et c'est lui comme un matelot qui vide les pots partira. Et c'est lui comme un matelot et Dieu sait quand il reviendra. Et c'est lui comme un matelot et Dieu sait quand il reviendra. Et c'est lui comme un matelot et Dieu sait quand.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après cette pause musicale, je vous propose de terminer la semaine au cours de laquelle nous avons découvert quelques textes courts et d'ambiance policière par un texte toujours dans la même tonalité, mais qui sera cette fois-ci un peu plus cocasse et comique. Un texte de James Thurber, M. Pribble se débarrasse de sa femme. M. Pribble était avoué à Scarsdale. C'était un homme d'âge mûr, assez grassouillet. Il avait coutume de demander à sa dactylo de partir avec lui, histoire de rire. « Si on partait tous les deux !» disait-il, lorsqu'il s'arrêtait de dicter une lettre. « D'accord !» répondait-elle. Un lundi après-midi, où il pleuvait à verse, M. Pribble posa la question d'un ton plus sérieux que d'habitude. « Si on partait tous les deux ?» dit M. Pribble. « D'accord !» dit la dactylo. M. Pribble fit tinter ses clés dans sa poche et regarda par la fenêtre. « Ma femme serait contente d'être débarrassée de moi, » dit-il. « Est-ce qu'elle accepterait de divorcer ?» demanda la dactylo. « Je ne crois pas, » dit-il. La dactylo se mit à rire. « Il faudrait vous débarrasser de votre femme, » dit-elle. Ce soir-là, pendant le dîner, M. Pribble garda le silence, contrairement à son habitude. Une demi-heure après avoir pris son café, il parla, sans lever les yeux de son journal. « Si on descendait à la cave, » dit M. Pribble à sa femme.
« Pourquoi faire ?» dit-elle, sans lever les yeux de son livre. « Oh, je ne sais pas, » dit-il, « nous ne descendons plus jamais à la cave, comme dans le temps.
Bah, »« Nous ne sommes jamais descendus à la cave, autant que je m'en souvienne, » dit Madame Pribble, « et je pourrais vivre bien tranquille le reste de mes jours sans jamais descendre à la cave. »
Monsieur Pribble garda le silence pendant plusieurs minutes.
Et si je te disais que j'y tiens beaucoup ?
Reprit M. Pribble.
Mais qu'est-ce qui te prend ? Demanda sa femme. Il fait froid dans la cave, et nous n'avons absolument rien à y faire.
Nous pourrions ramasser des morceaux de charbon, dit M. Pribble. Nous pourrions inventer un jeu quelconque avec des morceaux de charbon.
« Je ne veux pas y aller, » dit sa femme. « D'ailleurs, je suis en train de lire. »«
Écoute, » dit M. Pribble, en se levant et en arpentant la pièce, « pourquoi me refuses-tu de descendre à la cave ? Tu pourrais lire aussi bien dans la cave si c'est ça qui te cracasse. »«
On n'y voit pas assez, » dit-elle. « Puis de toute façon, je ne descendrai pas à la cave. Tu ferais mieux d'en prendre ton parti. »«
Bon sang de bois !» dit M. Pribble, en donnant un coup de pied dans le tapis. « Les femmes des autres descendent à la cave. Pourquoi ne veux-tu jamais rien faire de ce que je te demande ? Je rentre de l'étude, complètement crevé de fatigue, et tu ne veux même pas descendre à la cave avec moi ? Dieu sait pourtant que ça n'est pas très loin. Ça n'est pas comme si je te demandais d'aller au cinéma ou à un truc de ce genre. « Je ne veux pas y aller, tu m'entends ?» cria Mme Pribble.
Monsieur Pribble s'assit au bord d'un petit bureau.
« Oh, ça va, » dit-il. Il reprit son journal.
« J'aurais bien voulu pourtant que tu me laisses parler. J'ai autre chose à te dire à propos de la cave. C'est une espèce de surprise.
Vas-tu finir de me rebattre les oreilles avec cette histoire ?» demanda Madame Pribble.
« Écoute, » dit Monsieur Pribble en se dressant d'un bout. « Mieux vaut que je te dise la vérité au lieu de tourner autour du pot. Je veux me débarrasser de toi pour épouser ma dactylo. Est-ce que tu trouves quelque chose à redire à ça ? Ça se fait tous les jours. L'amour est une chose incontrôlable. »
« Nous avons déjà discuté là-dessus je ne sais combien de fois, » dit Madame Pribble. « Je ne vais pas recommencer. »
« Je voulais simplement te faire savoir où en sont les choses, » dit M. Pribble. « Mais tu prends toujours tout ce qu'on te dit à la lettre. Mais bon Dieu ! Croyais-tu que j'avais l'intention de descendre à la cave et d'inventer un jeu idiot avec des morceaux de charbon ?
Je n'ai jamais cru ça un seul instant, dit Madame Pribble. J'ai compris dès le début que tu voulais me faire descendre à la cave pour m'y enterrer.
Ah, tu as beau jeu de dire ça maintenant.
Après que je te l'ai dit, dit Monsieur Pribble, mais ça ne te serait jamais venu à l'idée si je ne t'avais rien dit.
Tu ne me l'as pas dit. C'est moi qui te l'ai fait dire, dit Madame Pribble. D'ailleurs, je sais toujours d'avance ce que tu as dans la tête.
Mais tu n'as jamais la moindre idée de ce que j'ai dans la tête, dit Monsieur Pribble.
Vraiment ? Eh bien, j'ai compris que tu voulais m'enterrer dans la cave à l'instant même où tu as mis le pied dans la maison ce soir.
Et Madame Pribble fixa sur son mari un regard enflammé.
Oh, ça alors, c'est de l'exagération pure et simple, dit Monsieur Pribble, fort contrarié.
Tu n'en savais rien du tout.
En fait, ça m'est venu à l'idée il y a quelques minutes à peine.
Tu avais cette idée-là derrière la tête, dit Madame Pribble. Je suppose que c'est ta femelle de secrétaire qui t'y a poussé.
Oh, inutile de prendre un ton sarcastique, dit Monsieur Pribble. Elle ne sait rien de tout ça. Elle n'est pas dans le coup.
J'avais l'intention de lui raconter que tu étais parti voir des amis et que tu étais tombé du haut d'une falaise.
Ce qu'elle veut, c'est que je divorce.
« Oh, laisse-moi rire !» dit Madame Pribble. « Je t'en prie, laisse-moi rire. À la rigueur, je veux bien que tu m'enterres, mais jamais je n'accepterai de divorcer. »«
Oh, elle le sait. »«
Je le lui ai dit, » dit Monsieur Pribble. « Je veux dire que je lui ai dit que jamais tu ne voudrais divorcer.
Oh, »« Tu as dû lui dire également que tu voulais m'enterrer, » dit Madame Pribble.
« C'est faux !» dit Monsieur Pribble avec beaucoup de dignité. « Cette histoire-là, « reste entre toi et moi. »
J'avais bien l'intention de n'en souffler mot à personne.
« Allons donc, tu la raconterais au monde entier, » dit Madame Pribble. « Inutile d'essayer de me monter le cou, je te connais. »
Monsieur Pribble tira quelques bouffées de son cigare.
« Je voudrais bien que tu sois déjà enterré et que la question soit réglée, » dit-il.
« Et tu ne penses pas un seul instant que tu te ferais prendre, pauvre Maboule ?» dit-elle.
« On se fait toujours prendre. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher au lieu de te monter le bourrichon pour rien ?»«
Je ne vais pas aller me coucher, » dit Monsieur Pribble. « Je vais t'enterrer dans la cave. Ma décision est prise, je ne vois pas comment je pourrais mieux me faire comprendre. »
« Écoute, » dit Madame Pribble. En jetant son livre sur le plancher, « Est-ce que tu serais satisfait et est-ce que tu la boucleras si je descends à la cave ? Est-ce que j'aurai un peu de tranquillité si je descends à la cave ? Est-ce que tu me ficheras la paix si je descends à la cave ?»«
Oui, » dit Monsieur Pribble.
« Mais tu gâches tout en prenant cette attitude. »
« bien sûr, je gâche toujours tout, je m'arrête de lire au milieu d'un chapitre, je ne saurai jamais la fin de l'histoire, mais ça t'est bien égal à toi.
Ben, »« Est-ce que c'est moi qui t'ai obligé à commencer ce livre ?» demanda M. Pribble. Il ouvrit la porte de la cave.
« Tiens, passe la première. »
« dit Mme Pribble en commençant à descendre les marches. Il fait rudement froid là-dedans.
« C'est bien de toi d'avoir une idée pareille à cette époque de l'année. Un autre mari que toi aurait enterré sa femme en été.
Ben, »« On ne peut pas arranger ces choses-là, exactement quand on voudrait, » dit Monsieur Pribble.
« Ce n'est qu'à la fin de l'automne que je suis tombé amoureux de cette fille.
»« Tout autre que toi se serait arrangé pour tomber amoureux d'elle longtemps auparavant. Il y a des années qu'elle travaille avec toi. »
Mais pourquoi laisses-tu toujours les autres hommes te passer devant ?
Oh, Seigneur ! Mais qu'est-ce que c'est sale ici ? Mais qu'est-ce que tu tiens à la main ?
Bah, je m'apprêtais à te cogner sur le crâne avec cette pelle, dit Monsieur Pribble.
Ah, vraiment ? Dit Madame Pribble. Eh bien, ôte-toi cette idée de la tête. As-tu l'intention de laisser un énorme indice au beau milieu de la cave pour que le premier détective qui viendra y fourrer son nez le découvre du premier coup ?
« Fais-moi le plaisir d'aller dans la rue et de chercher un morceau de fer ou un machin quelconque, quelque chose qui ne t'appartienne pas. »«
Oh, ça va !» dit Monsieur Pribble.
« Mais il n'y aura pas de morceau de fer dans la rue.
Les femmes s'imaginent qu'on trouve des morceaux de fer n'importe où.
Si tu cherches au bon endroit, tu en trouveras un, dit Madame Pribble.
Et ne reste pas dehors trop longtemps. Ne t'avise pas de t'arrêter au bureau de tabac. Je ne vais pas rester toute la nuit ici à me geler dans cette cave glaciale.
Ben ça va, dit Monsieur Pribble, je me dépêcherai.
Et ferme cette porte derrière toi, hurla-t-elle après lui. Où as-tu été élevé? Dans une écurie?
Voilà, nous avons terminé pour cette semaine ce batifolage avec des textes d'auteurs classiques, certains policiers, certains noirs, d'autres cocasses. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.